Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Retour du refoulé aujourd'hui dans Plan large avec Jean-Pierre Yedo, Ziva Postek et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Jean-Pierre Yedo, on le connaissait jusqu'à présent comme cinéaste algérien, marxiste et anticolonialiste et donc, comme il se doit, pro-palestinien et anti-sioniste, auteur d'une belle et émouvante trilogie introspective, Un rêve algérien, Algérie au pluriel mes fantômes et Algérie, histoire à ne pas dire. Trilogie consacrée à l'échec de son rêve d'une Algérie indépendante et multiethnique, laïque et fraternelle, qui était avant lui celui de son père, pied rouge d'origine catalane, qui avait choisi de rester dans son pays natal après l'indépendance en 1962. Et voilà qu'avec un film ample et riche de plus de 11 heures, dont la première partie est sortie en salle mercredi et dont les trois autres s'échelonneront tous les prochains mercredis d'octobre, il nous revient en cinéaste israélien, amoureux de la culture juive et de son histoire. Héritage maternel refoulé pendant plus de 50 ans et curieux de découvrir et de faire découvrir ce qui est devenu son pays. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est entre autres ce que raconte Israël, le voyage interdit, documentaire fleuve qui, sous la forme d'un road movie, jalonné de rencontres plus étonnantes et passionnantes les unes que les autres, avec émotion, érudition et souvent humour aussi, avec un parti pris subjectif assumé pour ne pas dire revendiqué, va à l'encontre de bon nombre d'idées reçu sur ce pays, son peuple et son histoire trimillénaire et tente, après bien d'autres, de répondre en cinéaste arpenteur, explorateur et curieux qu'il est, à rien moins que ce qu'on appelle depuis les Lumières, en passant par Karl Marx, Jean-Paul Sartre, Edgar Morin et d'autres encore, la question juive, ou pour paraphraser un autre cinéaste israélien autrement critique envers son pays, comment Jean-Pierre Yedo a appris à surmonter ses préjugés et à aimer Israël. Pour l'aider à donner forme à son voyage, notre invité a pu compter sur une bonne fée qui a produit et monté sa quête en images, Ziva Postek, qui s'était déjà, il faut le dire, fait la main sur les films de Jacques Tati, Alain René, Orson Welles et un certain Claude Lanzmann. Le montage de Shoah et l'invention de sa forme, c'est elle, et nous sommes très honorés également de la recevoir. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous entraînera dans les recoins obscurs du silence des agneaux de Jonathan Demme, ressorti mercredi en copie restaurée. Mais pour l'heure, commençons par le commencement.
Mon oncle maternel avait quitté l'Algérie en 1961. J'avais 13 ans. Et depuis, je n'avais plus eu de relation, ni avec lui, ni avec sa famille. Je n'étais pas non plus allé à son enterrement. Il y a 10 ans. Je l'aimais pourtant. Ce n'est donc pas lui que j'avais boycotté, mais le pays qu'il avait choisi, Israël. Qu'est-ce qui, durant plus de 50 ans, m'avait empêché ?
Bonjour Jean-Pierre Yedo.
Bonjour à vous.
C'est votre voix qu'on vient d'entendre. Elle ouvre la première partie de votre film, Israël, le voyage interdit. Et cette voix, on va l'entendre très régulièrement, ponctuer l'ensemble de ces 11 et quelques heures. Elle pose les enjeux. Premier questionnement de ce long voyage, qu'est-ce qui, pendant plus de 50 ans, vous avez empêché? Mais plus que ce qu'on entend, moi, je voudrais qu'on commence par ce qu'on voit. Avant de vous entendre parler, et ce sera le même plan d'ouverture pour chacune des quatre parties du film, on voit un plan très très large de la ville de Jérusalem de nuit, ce qui est important. Et puis par un zoom, le plan va se resserrer sur la vieille ville, alors qu'on appellera Mont du Temple ou Esplanade des Mosquées selon la perspective d'où on se place. On va y entrer dans cette ville avec une caméra qui d'abord va enlonger les fortifications, puis on y entre, il me semble, par la porte de Damas, où se presse une foule cosmopolite, c'est important, très mélangée, composée de juifs comme d'arabes. Lab. Et puis, on va se retrouver au son de la mélopée qu'on vient d'entendre devant un des murs les plus célèbres du monde, que lui aussi, on peut appeler par bien des noms et selon d'où on parle, on dirait. Alors, c'est le mur occidental, c'est le mur des Lamentations, c'est le mur de Bourac. On ne dit pas la même chose dans ce film selon comment on nomme les lieux. Et c'est très important aussi, c'est une des questions bien nommées. De ce fait, vous, tel que je l'ai décrit, votre film va suivre plusieurs mouvements, au-delà des multiples déplacements en voiture, on va en parler. Il va de l'ombre à la lumière, il va du plan large au gros plan, et il va du général au particulier, on pourrait dire, avec cette subjectivité dont je parlais, cette première personne qui tient déjà au fait que c'est vous, Jean-Pierre Liédot, qui tenez la caméra en permanence, à l'exception d'un plan.
Tout à fait. Oui, en fait, c'est pour ça que je dis des fois que c'est pas un film sur Israël, comme certains le pensent, parce que le titre du film commence comme ça, Israël, le voyage interdit, mais c'est vraiment ma vision d'Israël, qui se traduit cinématographiquement, bien sûr, par le fait que ce que voit le spectateur, c'est ce que je vois, c'est comment mon œil, disons, se transforme, se métamorphose d'un endroit à un autre, face à tel ou tel interlocuteur. Et donc, voilà, c'est ma vision d'Israël début jusqu'à la fin.
Mais du début jusqu'à la fin, parce que plus que votre vision, je dirais que c'est la construction d'une vision que vous racontez.
C'est en même temps la déconstruction de mes idées anciennes sur Israël et au fur et à mesure, bien sûr, surtout dans la quatrième partie, la reconstruction de mon regard, c'est-à-dire en fait le regard il dépend de choses qui se passent à l'intérieur de nous dont on n'a pas toujours la maîtrise et qui se transforment, qui changent et ça c'est un voyage, c'est pour ça qu'il est long aussi, qui m'a changé.
Je parlais de l'importance de bien nommer les choses. Il y a plusieurs doubles de vous dans le film. On va y venir aussi. Mais il y a un premier double qui apparaît dès les débuts, qui va visiter avec vous et découvrir avec vous ce centre de la pensée, de la vie, de l'histoire israélienne qu'est Jérusalem. C'est Boualem Sansal, un écrivain algérien, et qui va dire quelque chose qu'on ne nomme pas, d'une certaine façon, n'existe pas.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Boualem Sansal d'abord était arrivé à Jérusalem parce qu'il avait été invité au Forum international du livre. Il était d'ailleurs un invité d'honneur. C'est un ami. Et évidemment, j'allais pas manquer l'occasion de lui demander. C'était en plein moment de tournage d'ailleurs. C'est une époque de tournage en 2012. Et j'allais pas lui manquer de lui demander des choses. Et puis, d'autre part, c'était courageux de sa part de s'être annoncé publiquement, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels du monde arabe qui viennent en Israël, mais ils le disent pas. Et lui, par contre, ça lui avait même valu le retrait d'un prix qu'il devait recevoir pour le roman arabe. Cette visite lui avait coûté ça. Alors, avec lui, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé qu'il situait très bien la place, si vous voulez, d'Israël en Algérie, mais on peut généraliser, dans le monde arabe en général.
On n'appelle pas Israël.
Justement, voilà. Et alors, c'est un pays qui, il dit, que depuis l'indépendance de l'Algérie, il y a la télévision, on ne dit jamais le mot Israël. Alors déjà, et c'est un peu ce qui s'est passé donc pour moi, vivant en Algérie, on sent, on n'a pas besoin de nous expliquer qu'il vaut mieux ne pas prononcer ce nom. Voilà. Et évidemment, on était du temps du parti unique, il n'y avait pas de débat, mais aujourd'hui, depuis 1989, on est soi-disant dans le pluralisme en Algérie, et pourtant, ça reste encore une chose dont on ne pourra pas parler, dont on refuse même de dire le nom.
On l'appelle comment ?
Alors, c'est l'entité sioniste en général, c'est ça qu'on préfère, ça peut être la puissance occupante ou l'État oppresseur, je sais pas, enfin, autant de gentillesse qu'on peut imaginer.
Bah, vous dites qu'il y a beaucoup d'intellectuels arabes qui vont en Israël, qui ne le disent pas. Il y a beaucoup aussi de cinéastes arabes. Vous, c'est par le cinéma que vous êtes arrivé en Israël en tant que cinéaste algérien.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'étais en fait à Toronto Festival avec le film que j'ai fait précédemment, qui s'appelle Algérie, histoire à ne pas dire. Et ce film a été interdit tout de suite par les autorités algériennes. Quelques mois après, j'étais en septembre 2007 à Toronto. Là, la délégation israélienne a vu le film. Ça paraît-il, ça leur avait plu. Et ils m'ont fait savoir par quelqu'un du CNC qu'ils aimeraient avoir le DVD pour le montrer au Festival de Jérusalem. J'ai un peu hésité, mais comme c'était le CNC qui me demandait, j'avais peur de me mettre mal avec eux. Et puis, j'ai donné le DVD en pensant que le film ne serait pas sélectionné. Et puis, il l'a été. Au bout de 3 mois, j'ai reçu. Alors, que faire? C'était un dilemme. Alors, il y a deux choses, je pense, qui ont fait que, finalement, j'ai accepté. D'une part, ce film dont j'ai parlé, Algérie, histoire de ne pas dire, a été interdit par les autorités algériennes. Donc, d'une certaine manière, alors que nous étions dans un monde pluraliste, démocratique, depuis 1989, donc j'étais une persona non grata du point de vue des autorités. Et puis, mes propres amis, avec lesquels j'ai lutté, pendant 30 ans, on peut dire au moins, contre la censure, contre la torture, pour la démocratie, pour la liberté d'expression, etc. J'étais même en Algérie, j'étais un leader, si vous voulez, intellectuel, puisque j'avais contribué à créer le rassemblement des artistes intellectuels et scientifiques, qui en abrégé se dit le Raïs, c'est-à-dire aussi le président en arabe.
Vous cherchez
les
ennuis.
Et puis tous ces amis-là tous ces amis qui me sont tombés dessus, en quelque sorte, dans les journaux. Au début, on m'a laissé répondre dans les journaux. Et puis, on m'a censuré après mes réponses, parce qu'ils ont trouvé que mes réponses étaient encore plus compliquées que le film lui-même. Et donc, là, je me suis dit, bon, Jean-Pierre, maintenant, tu n'as plus de lien. C'est fini. Donc, tu es seul. Il faut que tu réfléchisses et que tu prennes ta responsabilité. Tu y vas, tu n'y vas pas, mais ça sera ton choix. Alors, d'autre part, ma fille me disait, mais nous avons une famille, nous ne la connaissons pas, il faut saisir l'occasion, il faut y aller. Bon, alors voilà, les deux choses ensemble ont fait que je me suis retrouvé au mois de juillet 2008 à Jérusalem, à la Cinémathèque où se passait le festival. Et à un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est cette colline-là en face? Elle me dit, c'est la colline de Sion. Alors, ça fait partie des expériences, je dirais, bouleversantes, qui tiennent souvent à des mots hein, ou des expressions, parce que tout d'un coup, pour moi, le sionisme, c'était une idéologie jusque-là. Et là, tout d'un coup, on me disait que ce sionisme, il venait de Sion. C'est un lieu, ça fait partie d'une géographie. Et là, donc, déjà, ça commençait à me poser des questions. Et à la fin de ce festival, il y avait un journaliste du Haaretz qui était venu me poser des questions sur le film. Et la dernière question, il voulait que je lui parle du conflit, parce que c'est comme ça qu'on dit en Israël. Et puis là, si j'avais été quelques années plus tôt, j'aurais raconté mes préjugés, mes salades, en quelque sorte. Et là, j'ai eu quand même la présence d'esprit de lui dire, écoutez, monsieur, je crois avoir compris depuis quelques jours que je ne connais absolument rien d'Israël. Alors laissez-moi lire des choses et on fera l'interview plus tard.
Et laissez-moi faire un film aussi.
No to przecież co mógł, to śpiewał, no tak, ładny głos miał i śpiewał.
Il avait 13 ans et demi, il avait une belle voix, il chantait d'une façon très belle, et on l'entendait.
Mały biały domek, mej pamięci twi. Mały biały domek, ciągle mi się śni. Okna tego domku, cudnie w słońcu lśnią. Jakbyś je oczy przechodzili łzą.
Bonjour, Ziva Postek.
Bonjour.
Ce n'est évidemment pas un extrait d'Israël, le voyage interdit qu'on a entendu ici. C'est le tout début d'un tout autre voyage, éprouvant autant qu'essentiel, le voyage de Shoah, le film auquel vous avez consacré 6 ans de votre vie et qui dure, lui, seulement 9h30. Là encore, et je crois que vous avez bataillé ferme pour convaincre Claude Lanzmann de ce choix de montage. On commence par un plan large. On entend de loin un homme chanter sur une barque qui vogue sur une petite rivière. On entend en off des paysans polonais se rappeler de lui. Et puis il y a un plan rapproché dans la barque, cette fois sur cet homme qui chante. Et cet homme, c'est Simon Srebnik, le premier des survivants de la Shoah qu'on va découvrir dans le film de Lanzmann. Si j'ai voulu qu'on entende cet extrait, c'est qu'il me semble que dans le film de Jean-Pierre Yedo, une séquence y fait référence directement. C'est une séquence tout à fait bouleversante où il filme un autre survivant des camps d'extermination. Il s'appelle Ishayahu Folman. Il a été déporté enfant en 1942 à Treblinka et lui revient de manière irrépressible des champs de cette époque. Quel lien est-ce que vous voyez entre Shoah et Israël, le voyage interdit Ziva Postek? Je crois que vous avez dit que dans ce film, vous voyez la suite nécessaire de Shoah.
Shoah, c'était un film sur la destruction des Juifs d'Europe. Et les voyages interdits, c'est la réponse. C'est autant choix, c'est la mort. Eh bien, le film de Jean-Pierre, c'est la vie. Et il fallait, pour moi, c'était fondamental. De autant pour choix, je me sentais, j'étais comme une missionnaire. Et c'était ma mission de tenir et faire ce film pour qu'on comprenne cette chose. Et quand Jean-Pierre m'a proposé de faire les voyages interdits, je ne faisais plus de montage d'ailleurs, je réalisais moi-même des films en Israël, mais je me suis dit, il faut le faire, parce que voilà l'occasion de faire quelque chose qui répond au film de Lanzmann. Voilà.
Ce dialogue avec le cinéma de Lanzmann, je l'ai imaginé, Jean-Pierre Yedo, où vous l'aviez en tête. Parce qu'il faut préciser que Ziva Postek a monté évidemment Shoah, mais aussi Pourquoi Israël, le premier film de Claude Lanzmann. Ça pourrait être d'ailleurs un titre du vôtre, Jean-Pierre Yedo.
Oui, en fait, d'abord ces deux films, Pourquoi Israël et Israël et Shoah, je veux dire, ce sont deux films que j'ai vus relativement tardivement. À partir du moment d'ailleurs où je me suis intéressé à Israël, c'est-à-dire à partir, disons, de 2008. Et quand j'ai vu Pourquoi Israël, j'ai compris que ce film, c'était pour Lanzmann une sorte de quête, disons, de normalité. Partout, ce qui l'intéresse, ce qu'il pose comme question, c'est de savoir si les Israéliens, les Juifs d'Israël, comment ils se sentent, est-ce que ça peut être des citoyens du monde, en quelque sorte. Et moi, après mon départ du festival en 2008, lorsque, comme je l'ai expliqué, je me suis plongé dans les livres, ne connaissant personne, ne connaissant rien du tout, je prenais n'importe quel livre à la bibliothèque, quels que soient les auteurs, quelles que soient leurs opinions, je ne les connaissais pas. J'ai assez vite compris que Israël, c'est une exception, à tout point de vue. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte comme ça qui s'appelle Israël, l'exception, à tout point de vue, c'est-à-dire son histoire. Tout ce qui lui est arrivé, c'est exceptionnel. Je dis des fois qu'effectivement tous les peuples ont été à un moment donné ou à un autre de leur histoire massacrés, torturés, expatriés, déportés, etc. C'est vrai. Mais Israël, j'ai compris que c'était à toutes les époques. Et ça l'a distingué de multiples façons. Tout est exceptionnel, si vous voulez. Aujourd'hui, par exemple, vous savez, il y a des disputes incroyables politiques en Israël entre différents groupes d'opinion. Et il y a une démocratie. Donc, je ne connais pas les États-Unis profondément, mais je pense que c'est encore un degré de démocratie encore plus grand qu'aux États-Unis. Et alors que les gens qui vivent donc aujourd'hui en Israël, ce sont pour l'essentiel des gens qui sont revenus soit d'Europe de l'Est, soit du monde arabe. Or, dans ces deux endroits, comme vous savez, c'est les endroits les moins démocratiques dans le monde aujourd'hui. Alors, voilà, d'où ça vient, c'est encore quelque chose qui est exceptionnel. Et donc, je me suis dit, ce que je vais essayer, il faut que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui est, disons, relève de cette exception. Quand j'ai entamé la réflexion pour le scénario, pour écrire un film, pour faire quelque chose, quoi.
C'est d'autant plus exceptionnel qu'en plus, c'est très compliqué.
Il y a une histoire vraie. J'avais à Beersheba un ami qui est venu en 49, en Israël, seul. Boukhara.
Mise
Boukhara.
Ah oui, d'accord.
Il était bien connu. Constantine. Et plusieurs années après, fin vers les années 57-58, son père de Constantine a décidé de venir le voir. Il débarque à Haïfa. Son fils et lui se retrouvent, ils sont tout heureux, et puis le père demain, il dit à ce sens. Pourquoi vous avez autant de chrétiens en Israël? Tous ces yeux bleus là. Alors il lui dit, non papa, ce sont des juifs, des russes, des polonais, des roumains. Ah bon, ah non, d'accord. Et puis au bout d'un moment, ils s'en vont dans les rues de Haïfa, c'était un dimanche matin, il entend les cloches sonner. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces cloches en Israël, chez les Juifs? Il dit, c'est pour la messe. Il dit, comment la messe? Vous avez des chrétiens? Je dis, bien sûr, il y a tout. Tu veux voir l'église? Il lui dit, oui, oui. Et à l'entrée de l'église, il voit des gens qui rentrent. Les hommes ont un tarbouche rouge sur la tête. Il dit, mais ça, c'est des Arabes. Il lui dit, oui, mais c'est des Arabes chrétiens. Il lui dit, les Juifs, c'est des chrétiens. Les chrétiens, c'est des Arabes. Les Arabes, c'est des Juifs. Qu'un pays fichu, je ne reviens pas, moi, là-dedans.
C'est tellement complexe avec les religions et les différentes communautés, ethnicités, le peuple juif qui revient après 2000 ans en Israël, la terre de ses ancêtres, et il rencontre les Palestiniens qui habitent ici.
Les Palestiniens arabes, parce qu'il y avait des Palestiniens juifs.
Oui, parce qu'il y avait aussi des Palestiniens juifs. Toute cette histoire-là est presque impossible à raconter. Et ça fait que la plupart du monde ne comprend pas ce que c'est cette espèce de tout petit pays avec tant de complexité.
Vous écoutez France Culture, Plan Large avec Jean-Pierre Yedo et Ziva Postek. Toute cette histoire-là est presque impossible à raconter. C'est Ruth Malki Yaron qu'on vient d'entendre. Elle est officier de l'armée israélienne. Elle a été porte-parole des forces de défense israéliennes, comme on les appelle là-bas. Et c'est celui qu'on entend avant elle, c'est son père, David Malki, qui vous raconte cette histoire de juifs constantinois horrifiés de la diversité ethnique et culturelle qu'il découvre en Israël. Or, c'est précisément cette diversité qui vous a frappé en premier, Jean-Pierre Yedo. Quand est-ce que vous vous êtes dit que cette histoire était possible à raconter malgré la complexité inouï dont on vient d'avoir à peine un aperçu avec cet extrait?
Écoutez, il faut revenir toujours à l'origine. Donc, c'est mon premier contact, c'est avec le festival de Jérusalem. Quand on est dans un festival, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même circulé un peu autour, disons, du festival. Je suis arrivé jusqu'à ce fameux marché qu'on appelle le camp de Judée, Machane Yehuda, et qui est un marché, on peut dire, mythique à Jérusalem. Et là, quand je me suis retrouvé à l'intérieur, j'ai eu l'impression, vraiment, c'est physique, de me retrouver dans le marché des Juifs d'Oran, où j'ai vécu toute mon enfance, donc jusqu'à l'âge de 10 ans, et où mon oncle a habité aussi pendant 2 ans quand il est arrivé de Tlemcen, pendant la guerre d'Algérie. Et là, ces deux images qui se télescopaient, celle des années 50 et celle que je voyais, et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a 50 ans, il y a un trou, quoi, il y a un trou noir. Évidemment, quand on est cinéaste, on a le réflexe de se dire tout de suite qu'on va explorer, évidemment, ce trou noir. C'est un peu comme le trou noir des physiciens, quoi. Voilà.
Donc, qui vient d'avoir un prix Nobel.
J'étais, en fait, à partir de ce moment-là, je peux dire que j'étais aspiré par... C'est pas moi qui ai fait la quête, là, mais c'est la quête qui m'a inspiré, en quelque sorte, pour faire ce voyage. Alors, c'est un voyage, évidemment, qui m'engageait totalement. Qui m'engageait totalement dans toute ma vie. Et c'est pour ça que, à l'issue de ce voyage, pour moi, j'ai trouvé l'endroit que je cherchais, en fait. L'endroit où j'avais une place. Parce que je pense qu'on est tous comme ça, on arrive par hasard au monde, et puis on essaie de se trouver une place dans un endroit, quoi, dans une... Alors, les uns appellent ça une tribu, les autres des clans, les autres une nation, etc., un peuple, etc. Et moi, j'ai, en Algérie, après l'indépendance, si vous voulez, en 62, tout d'un coup, le paysage humain a complètement changé, puisqu'il y a 1 million de personnes, quand même, qui a disparu. L'exode des pieds noirs, des juifs, etc., c'est, humainement, c'est un choc. J'avais dit à mon père, mais écoute, comment on va faire maintenant? Nous, on ne parle pas l'arabe à la maison. Tout le monde est parti, la famille est partie, paternelle, maternelle, etc. Mon père voulait rester, il m'a dit, bon, tu vas apprendre l'arabe, etc. Mais j'ai saisi tout de suite l'occasion d'avoir une bourse en française après mon bac, non pas pour faire des études, mais pour savoir si je pouvais être français. Et au bout de 6 mois, bon, voilà, je me suis dit, non, je ne suis pas français. Alors je suis parti m'inscrire dans les organisations algériennes d'étudiants, même le Parti communiste clandestin de l'époque. Et je cherchais une place. Et puis je suis devenu donc algérien, je me suis assumé comme algérien. Mais je ne voulais pas me le reconnaître, mais en fait, il n'y avait que moi qui voulait ça. Il y avait des gens, bon, évidemment, mes amis, tout ça, ma belle famille, puisque j'ai été marié à une Algérienne, qui m'adoptait d'une certaine manière. J'avais mes clans, j'avais le clan communiste, le clan familial, mais au dehors, voilà, dès qu'il y a eu le pluralisme, par exemple, la télévision algérienne est venue me voir, me demander qui j'étais, Jean-Pierre Yédo. J'ai dit mon père, catalan, tout ça, ma mère, juive, j'ai ajouté berbère parce que j'ai trouvé que juif c'était trop fort pour la télévision algérienne, même à cette époque, en 90, du temps du pluralisme. Le lendemain, notre voisine disait à mon fils, sale juif. Donc j'étais ramené toujours à cette réalité. Et puis après, quand j'ai fait mon film Algérie, histoire de ne pas dire, ce film, ça raconte en fait... avec tous des Algériens, arabes et musulmans. C'est pas moi qui parle dans le film. On arrive à comprendre que cette guerre dite, appelée de libération en Algérie, en fait, a été, dès le début, et menée par le FLN comme une guerre d'épuration. Alors, donc là, c'était en fait aussi un refoulement de cette question-là. Je n'avais jamais pu, quand j'étais en Algérie jusqu'en 1993, aborder ce sujet. Il a fallu que les islamistes me menacent, que je m'en aille, que j'aille en France, qu'il y ait une séparation, si vous voulez, pour que je puisse commencer à penser ce problème. C'était mon premier tabou. Et il m'a fallu beaucoup de films en France, faits en France, pour justement casser ce tabou. Et alors après, une fois que j'ai cassé ce tabou, avec ce dernier film interdit en Algérie, je pouvais m'attaquer à l'autre tabou, qui était le tabou Israël. Et voilà. Et donc, avec ce film, j'ai trouvé ma place, si vous voulez. Enfin, j'ai l'impression d'avoir trouvé un pays, un peuple dans lequel j'étais. Et la première chose qui m'a frappé, donc, effectivement, c'est de me dire, finalement, cette Algérie multiethnique que tu cherchais pour avoir une place. Parce que moi, je me voulais algérien, mais j'étais pas musulman, j'étais pas arabe. D'ailleurs, quand j'étais gosse, je me rappelle très bien, j'avais 6, 7 ans, etc., tous les gamins arabes disaient, on est arabe. J'ai jamais entendu un gosse arabe dire, je suis algérien. Et donc, moi, avec l'éducation communiste de mon père et tout ça, que j'entendais les discussions, et j'ai expliqué à ces gamins qu'il ne fallait pas dire arabe, il fallait dire algérien. En fait, le mot algérien me permettait à moi, qui n'étais pas arabe et musulman, d'avoir une place. Et bon, ça, Je ne l'ai pas trouvé vraiment. Je ne vais pas raconter toutes les misères que j'ai eues en faisant mes films, mais voilà, je ne l'ai pas eu. Et quand j'arrive en Israël, alors je vois ces gens dans la rue, pour moi, c'était un pays mono-ethnique. Des juifs, tous blancs, tous avec des chapeaux, etc. Et tout d'un coup, je trouvais des gens, des Éthiopiens avec des kippas sur la tête, des noirs, des rouges, parce que je dis rouges parce que j'ai rencontré un Péruvien, un juif du Pérou, et puis les Arabes. Et puis les Arabes, vous avez les Arabes chrétiens, on ne les distingue pas. Ils sont comme les Juifs, les basanés, de la même manière. Il y a ceux qu'on peut comprendre qu'ils sont arabes musulmans, c'est parce à cause des femmes, parce qu'elles portent la burqa, toutes. Donc voilà, je me suis dit finalement, cette Algérie, cet endroit multiethnique que tu cherchais toute ta vie, eh ben, il est là.
Tu m'as dit que tu ne savais pas que tu étais juive.
Quand on s'est marié, j'étais aux États-Unis. C'était un mariage civil parce que je ne savais pas d'être juif. Et on a rencontré le rabbin Shlomo Kalebach. Et on a eu deux enfants. On était à San Francisco, Californie. Et le rabbin Shlomo Kalebach m'a dit: écoute, c'est pas juste pour tes enfants, tu devrais être juif pour leur identité, qui n'ont pas de crise d'identité. Je dis bien, j'ai fait la conversion chez un rabbin, s'appelle le rabbin Frankel. Je lui ai montré l'outil là, il a dit, mais je peux pas y faire rien, c'était le moyen, c'était le circoncisé. Il a dit, c'est déjà fait là, ici. Et je dis, quoi? C'est déjà fait, quelqu'un était déjà là. Je sais pas. Parce qu'aux États-Unis aussi, les pas juifs le font pour raison médicale. Bien, qu'est-ce que c'est? Et quand je fais la conversion, quand je suis arrivé en Italie, j'ai dit à ma mère, en m'en direction par Israël, j'ai dit à ma mère, maman, tu sais, maintenant je suis juif. Et ma tante a commencé à craquer de rire. Mais je t'ai dit, disait à ma mère, je t'ai dit que ça ne marcherait jamais. Alors, de quoi vous parlez-vous? Il dit, mais tu étais déjà juif toute ta vie, mais tu ne savais pas parce qu'on a voulu te le cacher. Parce qu'on pensait que c'était mieux pour toi. Bon, c'était le meilleur cadeau de mariage que j'ai jamais reçu.
Ce personnage magnifique, je crois que parmi les dizaines de personnages qui sont dans votre film, c'est mon préféré, c'est Eliaou Galor, qui se présente lui-même comme le Rebbe Pizza, le rabbin de la pizza, un personnage qui mériterait un film entier sur lui, tellement, voilà, vous-même vous le comparez à Mangeclou, le personnage d'Albert Cohen. Tous ces personnages, j'imagine, je vous ai imaginé un moment, Ziva Postek, devant votre table de montage, vous régalant du matériel que vous aviez à monter, devant faire aussi des sacrifices, des choix. Comment est-ce que le montage de ce film s'est fait à partir à la fois de ces personnages et de ces grandes séquences de road movie dont je parlais tout à l'heure, ces séquences en voiture où on entend presque la pensée en train de se construire du cinéaste, hein, Ziva Postek.
À la différence des choix, Jean-Pierre, après le tournage, on avait 250 heures, avait écrit des scénarios et il m'a facilité le travail. Sur Shoah, il n'y avait pas de scénario et il y avait 350 heures. Il fallait créer les films sur la table de montage. Mais Jean-Pierre m'a facilité parce que j'avais un ordre. Mais à l'intérieur de cet ordre, les séquences étaient terriblement difficiles à construire. Pour une raison, parce qu'au départ, Jean-Pierre pensait qu'il fallait tourner les choses très cates. Moi, je lui disais, c'est pas possible, mais il l'a fait. Hein. Je dis, jamais on pourra faire... je savais pas qu'on allait faire 4 films, mais personne pourra regarder un film très long, disons un seul, d'une 4 heures, en coupant ça rapide. Il faut que ce soit lent. Et finalement, non, il fallait vraiment se casser la tête comment donner aux séquences un rythme qui soit autre. C'était pas toujours facile, mais je suis arrivée. Et Jean-Pierre a eu m'a laissé. Je voulais dire que je lui ai dit, la condition que je monte, c'est que tu me laisses toute seule. Au départ, il a eu beaucoup de mal. Mais je lui ai dit, à chaque séquence, à la fin, tu viens, je te monte la séquence. Si tu veux qu'on change, pas de problème. On discutera et on verra. Et il a fini par accepter. Il disait, j'ai jamais fait ça, j'ai toujours été près de mes monteurs. Mais je crois que il me faisait confiance, il a fini par me faire confiance, parce qu'on a beaucoup discuté, et puis je pense que je m'identifiais complètement à sa recherche. Peut-être parce que moi aussi j'avais une histoire, c'est-à-dire moi je suis née en Israël, avant l'État. Petite fille, j'ai vu les Anglais, les mandats anglais. Il y avait la guerre de 48. Et puis, les rescapés de la Shoah qui arrivaient. Et ça m'a traumatisée. Parce que j'allais avec mes parents chercher des frères, des sœurs. Personne n'est resté. Ils sont tous passés par la cheminée. Alors, quelque part, c'était inconscient. Je me disais, si c'est ça qui arrive aux Juifs, moi je prends envie d'être juif. Et j'ai fini par partir pour faire du cinéma, mais au fond, c'était un mélange de choses où, d'un côté, je ne voulais plus voir de Juifs quand je suis arrivée à Paris, et puis je ne. Mais c'est une longue histoire, je vais. J'avais une sorte d'un, j'appelle ça le tunnel intérieur, c'est-à-dire que les choses se passent inconsciemment et on ne sait pas. Et ça a pris 25 ans, même plus, pour que je vois la lumière. C'était la fin du choix et où je m'étais dit, il faut rentrer à la maison. C'est là-bas ta maison. Et puis je suis rentrée. Et alors, pour revenir au voyage interdit, c'est Jean-Pierre, finalement, avait accepté. Et j'ai pas de technique. J'ai jamais eu de technique, sauf dans le cinéma français, souvent, dans des films documentaires, on fait ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire qu'on, tout le matériel, et puis on réduit. Et j'ai jamais pu faire ça. Je monte les séquences une après l'autre. Je lâche pas la séquence tant qu'elle n'est pas parfaite. Et après, je passe à la suite. Donc, quelque part, bon, on corrigeait quand des choses ne plaisait pas à Jean-Pierre, mais quand on a fini le montage, le film était fait. Thank you.
Merci Ziva Postek, Jean-Pierre Yedo, Israël, le voyage interdit est en salle depuis mercredi dernier. Chaque partie est autonome, mais si vous voulez faire le voyage et en suivre la progression, on vous conseille tout de même de les voir dans l'ordre. De multiples rencontres et débats sont prévus avec vous deux. Vous en trouverez toute la liste sur le site de France Culture à la page Plan Large. Et puis apparaître aussi, je crois, dans quelques jours un livre, le 16 octobre, le voyage interdit Alger-Jérusalem, qui raconte la même histoire, mais sous forme donc de livre. C'est aux éditions Les Provinciales. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est temps d'ouvrir le journal du cinéma.
شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید.
هر چی خواستی گفتی بخش. انصافا خود جای اون خانم گلی میبخشیدی.
Pourquoi vous voulez un enfant?
Ben, je te sème.
Tu les avais déjà rencontrés?
Ouais, je crois qu'elle bosse au labo depuis pas longtemps. Là. Elle est pas mal, hein?
Vous êtes retournée à l'hôpital?
Ben, on va pas continuer. Adopter, c'est avoir un enfant.
Non, c'est pas pareil.
Et je lève mon verre aux nouvelles aventures de ma famille.
William Blackstone, Frontiersman.
Nobody with a good car needs to be justified.
Woke up one morning, she was gone.
And where you are ain't no good unless you can get away from
it. T? Do you know where you were, Mum?
I suppose I went out.
What's this?
I was on the property when your grandfather inherited it. His mind wasn't there in the end.
You can't put Gran in a home.
She can't live on her own anymore. She has to be watched.
Everything all right, Gran?
I thought this was where it got in.
Who?
Whoever was coming into the house.
Dans vos salles, cette semaine, une émission de télé-réalité où une femme meurtrière par accident de son mari doit tenter d'obtenir en direct et devant des millions de téléspectateurs le pardon de la fille du défunt pour éviter d'être exécutée selon la version iranienne de la loi du talion. C'est Yalda, la nuit du pardon de Massoud Bakshi, le réalisateur en 2012 d'une famille respectable. Un homme déchiré entre deux femmes, celle avec qui il travaille et un projet d'adoption, et une autre enceinte de lui. Ce n'est pas bigamie, dit Dalou Pinault, dont nous parlions la semaine dernière. C'est L'enfant rêvé de Raphaël Jacoulot, encore une histoire de transmission, mais dans les Alpes et dans une Syrie, avec Jalil Lesper, Mélanie Douté et Louise Bourgoin. Il y a encore un consul britannique alcoolisé au-delà du raisonnable et à la dérive dans une ville mexicaine, mais aussi un prédicateur enragé dans une Amérique profonde et extrêmement religieuse. Ce sont Au-dessous du volcan et Le Malin, deux chefs-d'œuvre de John Huston qui ressortent en salle cette semaine en version restaurée. Et puis enfin, Une vieille dame, dont on ne sait trop si elle est atteinte de démence sénile ou si elle est possédée par le démon. C'est Relique, prometteur, premier film d'une nouvelle venue sur la scène anglo-saxonne de l'horreur contemporaine, à suivre de très près l'Australienne Nathalie Erica James, qui allie donc le film démoniaque avec l'angoisse de la dépendance des personnes âgées. On est tout à fait dans l'actualité. Premier long métrage de fiction encore avec Maternal de la réalisatrice italienne Maura Del Piero, venue au cinéma par le documentaire après avoir enseigné les lettres en Italie et en Argentine. Et c'est dans ce pays, à Buenos Aires plus précisément, qu'elle nous plonge dans un hogar, un foyer de jeunes mères adolescentes tenues par des nonnes dans ce pays où l'avortement, rappelons-le, est toujours illégal, la pandémie de Covid ayant encore repoussé le projet de loi promis par le président actuel. Il aura fallu 4 années de recherche et d'immersion dans ces foyers de mères célibataires pour que Maura Del Piero réalise ce film qui joue avec les codes du documentaire en mettant en scène notamment des actrices non professionnelles, tout ça dans un huis clos réaliste, intime et radical. Maura Del Piero.
Je voulais que ça soit un film ici et maintenant, dans ce monde complètement enfermé. En fait, on sort qu'une fois et pour moi, on sort pas. C'est-à-dire que la caméra, elle est sur la sœur et sur son intimité, sur cette décision difficile à prendre. Et là, par exemple, on a même travaillé avec les sons d'une forme un peu expressionniste, pas réalistique, pour vraiment rester avec elle. et donc les bruits de la vie qu'ils apparaissent, tout ça. Donc, d'un côté, il y avait cette radicalité que je voulais protéger, parce que ça soit une invitation radicale pour les spectateurs, c'est-à-dire entrer et rester une heure et demie dans ce lieu où normalement on ne peut pas sortir. Et de l'autre côté, je pensais que c'est beaucoup plus intéressant que le focus ça soit sur le désir de cette jeune femme pour un homme qui la frappe. Qu'est-ce que ça lui raconte de comment se vit le désir féminin dans ces situations patriarcales, à quoi ça peut arriver. Donc je voulais que ça soit vraiment un film sur l'intimité de ces femmes et tout ce que ça nous raconte sur la société. C'est un film collectif et il y a deux groupes principaux, même, voire trois, parce que c'est les sœurs, les filles et ses enfants. Et il y avait une opposition déjà dans la réalité entre ces deux groupes qui paraît venir de deux planètes différentes. Et je ressentais que je pouvais avoir des professionnels pour les nonnes. Elles avaient déjà une formalité en soi. Et par contre, pour les mères adolescentes, j'ai cherché de voir aussi des jeunes actrices, mais j'étais jamais contente. Elles étaient très bien et c'était beaucoup plus facile de travailler avec elles, bien sûr. Mais après, j'avais un paramètre dans ma tête, en ayant fait beaucoup de recherches, qui était un paramètre d'une grande vérité, qui se voit dans le visage, dans la forme de bouger, dans la forme de parler, quelque chose que tu rayonnes, qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qui est là. Et quand je voyais les actrices, il y avait un décalage. Et donc voilà, j'ai pris ce choix, que bien sûr, après, c'est un beaucoup de travail, sur pas seulement sur, disons, enseigner à jouer, c'est pas vraiment enseigner à jouer, mais par exemple, c'était aussi un travail sur l'autoestime. Sur Luciana, par exemple, la fille blonde, elle me demandait toujours « Mais t'es sûre que tu me veux à moi ?» Et je ne sais pas faire. Du coup, moi, j'ai passé le tournage en lui tenant la main, en dictant, en lui suggérant les phrases, les dialogues. Donc, c'est vraiment un travail complètement différent de ce que tu fais avec les acteurs. Mais à la fois, la vérité qu'elle donne à l'écran, elle a pas de prix. Quoi.
Hola.
Hola.
Sor Paola, nueva de Italia.
Buongiorno, mon cra.
Maternale de Maura Del Perro est en salle depuis mercredi. Je signale encore quelques livres récemment parus. Un très beau livre, Jean-Louis Trintignant, Dialogue entre amis, qui raconte une amitié de plus de 50 ans entre l'acteur et le cinéaste Serge Corbert, qui l'avait fait tourner deux fois, puis qui avait fait un documentaire sur lui, c'est à la Martinière. Le roman de Godard chez Marest Éditeur, c'est la réédition sous un autre titre de En attendant Godard, que le journaliste Michel Vianney avait publié en 1967, ayant suivi le cinéaste et ses acteurs sur le tournage du Mépris et de Masculin Féminin. Réédition encore, la nouvelle équipe des Cahiers du Cinéma, un triumvirat dont les noms et les voix sont familiers aux auditeurs de Plan Large. Marcos Uzal, Charlotte Garçon et Fernando Ganzo a eu l'excellente idée de revivifier la branche livre de la maison en jachère depuis bien trop longtemps. Et pour fêter le centenaire d'Éric Rohmer et célébrer les 10 ans déjà, oui, de sa disparition, ressortent en librairie des ouvrages de lui jusqu'alors épuisés, Le goût de la beauté, recueil de ses textes critiques les plus importants, et deux recueils de scénarios, Les Contes des Quatre Saisons et Les Six Contes Moraux. Ça sortira le 22 octobre, mais si on vous en parle dès maintenant, c'est parce que samedi prochain à Paris, au cinéma du Panthéon et à la librairie Ciné-Littérature qui la jouxte, auront lieu à 10h45 la projection du documentaire de Jean-André Fieschi et Françoise Etchegaray, La Fabrique du Conte d'été, et surtout à 12h45 des lectures des scénarios des Contes des Quatre Saisons par 8 acteurs romériens, dont Florence Darrey, Luc Kester, Amanda Langlais et Marie Rivière. Voilà qui promet. Cahiers du cinéma toujours, mais cette fois à Beaubourg, le Centre Pompidou qui avait dû suspendre sa programmation cinéma avec le confinement. On attend impatiemment sa rétrospective et son exposition Abbas Kiarostami, qui est reportée au printemps 2021. Le Centre Pompidou donc reprend ses activités cinématographiques en attendant Timing Yang fin novembre et Kelly Reichardt en janvier. On vous parlera de tout ça dans Plan Large. Le centre ouvre ses portes au cahier du cinéma pour une programmation inédite. Le cinéma comme il va, histoire de faire le point en cette période si particulière et difficile pour le 7e art. On y verra de multiples avant-premières comme le nouveau chef-d'œuvre de Frédéric Wiseman, City Hall, défense et illustration d'une gouvernance vertueuse, et oui c'est possible, dans l'Amérique de Trump, ou les très attendus Mandibules de Quentin Dupieux, n'est-ce pas, Manu? Mathieu Macheret. C'est du 15 au 25 octobre. Tous les détails sur le site de France Culture à la page Plan Large. Après toutes ces bonnes nouvelles, il est temps de s'aventurer dans les couloirs sombres de l'horreur postmoderne.
He's past the others. The last cell, you keep to the right. I put out a chair for you.
Oh, yes, that's very good, thank you.
I'll be watching. You'll do fine.
Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
You're one of Jack Crawford's, aren't you?
I am, yes.
May I see your credentials?
Certainly.
Closer, please. Closer.
Plus près, toujours plus près, on ne se remet jamais vraiment de sa première rencontre avec Hannibal Lecter. Ça fait presque 30 ans qu'est sorti sur les écrans le film aux 5 Oscars les plus prestigieux, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleurs acteurs pour Jodie Foster et Anthony Hopkins, malgré ses seulement 16 minutes d'apparition à l'écran. Le silence des agneaux, donc seul New York Miami et Vol au-dessus d'un nid de coucou ont fait aussi bien avant lui et personne depuis. Le film qui a terrorisé des millions de spectateurs à sa sortie et ressorti en salle mercredi dernier dans sa version restaurée. Excellente occasion évidemment d'actualiser notre regard sur lui après des décennies de serial killer en tout genre sur les écrans grands et petits et dans une époque où on ne sait si c'est son féminisme avec son personnage d'enquêtrice débutante du FBI, une jeune femme qui essaye d'en sauver une autre comme l'a présenté à l'époque son interprète Jodie Foster, ou sa supposée homophobie, transphobie avec son personnage de tueur transsexuel qui sera retenu en sa faveur ou sa défaveur, Mathieu Macheret.
Mais en tout cas, c'est un film qui est très étrange de revoir aujourd'hui puisqu'il est à la fois très proche et très lointain. C'est assez étonnant. En tout cas, plus la restauration des œuvres et leur accession au statut de classique progressent dans le temps, plus elles atteignent, par la force des choses, les films de notre enfance ou de notre adolescence, hein, comme ce Silence des agneaux, hein, qui ressort en copie neuve, qui a marqué au fer blanc toute une génération. C'est bien sûr l'un des films clés des années 90 qui ouvrait le bal de la décennie en posant les jalons du film de serial killer. On n'a pas de mal à trouver des antécédents de ce film de serial killer, comme Henry Portrait of a Serial Killer de John McNaughton en 1986, ou même avant Les Tueurs de la Lune de Miel de Leonard Castle en 1970. Mais il se constituait avec Le Seigneur des Anneaux comme un véritable sous-genre policier.
Le silence des anneaux.
Ah oui,
le silence
des anneaux. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible, l'effacement des titres comme ça, le parasitage. Mais voilà, il était en tout cas complètement en phase avec la remontée paranoïaque et millénariste de l'époque, hein, ce sous-genre, car la psyché tourmentée et labyrinthique de cette nouvelle incarnation du mal qui était le tueur en série invitait à redessiner les contours moraux du récit criminel. Désormais, pour traquer le tortionnaire, il fallait se mettre à sa place, entrer dans sa tête, pénétrer dans les détours de sa pensée, au risque de se laisser pénétrer soi-même en retour par sa perversité ou son sadisme, et quelque part reconnaître quelque chose de soi en lui. Horreur suprême qui n'était d'ailleurs que la prolongation d'un fameux adage nietzschéen « Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme lui aussi regarde en toi ». Alors le récit qui était adapté du second volet de la fameuse tétralogie du romancier Thomas Harris mettait aux prises une jeune recrue du FBI en cours de formation, Clarice Starling, admirablement interprétée par Jodie Foster, qui était vraiment très impressionnante dans le film, et Hannibal Lecter, donc Anthony Hopkins, célèbre personnage de psychanalyste cannibale qui au début du film est un incarcéré dans une prison haute sécurité. Tel le petit chaperon rouge s'enfonçant dans les bas-fonds de la psyché humaine, elle part à la rencontre de ce grand méchant loup pour lui soutirer des informations sur un autre tueur lâché dans la nature, un certain Buffalo Bill, dont la particularité est d'écorcher ses victimes. Un jeu tordu s'engage entre les deux, et revoir le film aujourd'hui avec un peu de recul permet d'abord de constater à quel point il a été pillé, vraiment essoré par une horde de films et de séries apparues dans son sillon, mais aussi de reconsidérer cet abîme assez étonnant qu'il nous proposait de sonder.
Mind the drawings, please. Thank you.
Scène d'évasion d'Hannibal Lecter qui a laissé presque autant de traces dans l'esprit du spectateur de l'époque que sur le visage du pauvre gardien de prison duquel on entend croquer la joue dans l'extrait. Et ce qui est intéressant ici, c'est bien sûr le mélange de violence et de haute culture qui se dégage du passage. On entend les variations Goldberg au son. Et donc dans les années 90, le mal n'est plus tellement une émanation de la sauvagerie, mais le produit d'une intelligence extrême et d'une culture raffinée qui confine bien sûr au méandre de la perversité. Et Hannibal Lecter fut ainsi le chef de file de toute une flopée de méchants lettrés et très cultivés, un peu shakespeariens. En revanche, là où on peut soupçonner le film d'avoir peut-être un peu vieilli, c'est à l'endroit du second tueur, comme vous l'avez dit Antoine, Buffalo Bill, qui est perturbé par sa transidentité, peut-être moins d'ailleurs par la transidentité en elle-même que par la frustration de n'avoir pu mener sa transition à terme, tuant dès lors pour se réapproprier une enveloppe qui ne lui convient pas. Alors la caractérisation psychologique pourra sembler aujourd'hui un peu balourde ou tout du moins archaïque, même si on peut aussi la prendre d'une certaine façon comme un clin d'œil au fameux Psychose d'Alfred Hitchcock où voilà, il y avait aussi une sorte de substrat psychotique assez qui était de l'ordre de la hantise. Malgré tout, Le silence des agneaux est bel et bien resté un chef-d'œuvre, ne serait-ce que pour le parcours qu'il dessine au personnage de Clarisse, jeune femme plongée dans un monde d'hommes. Il y a une scène où on la trouve dans un ascenseur au milieu de toute une assemblée de types très baraqués et elle est toise d'une manière assez amusante. Cernée aussi par les figures paternelles étouffantes, que ce soit Hannibal Lecter ou ses supérieurs hiérarchiques ou même un père mort qui ne cesse lui aussi de la hanter. Elle déjoue l'ambition de ses chefs et la malignité de ses cibles par l'exercice de son intelligence et de sa sagacité et déniche au fond d'elle la fragilité du doute et la force de l'ambiguïté. C'est ce qui est assez étonnant dans le personnage. Le film impressionne par sa fluidité, sa mise en scène est vraiment lancée dans un dédale de couloirs et les détours d'une Amérique habitée par une flopée de minotaures et de monstres et se fixe tout à coup sur le visage de son héroïne pour saisir justement ce point de bascule entre sa fragilité et sa force, qui est questionnée tout au long du film. Et à la revoyure, le plus bel aspect du film réside peut-être dans ces dernières scènes où on retrouve l'héroïne faisant cavalier seul, retournant sur le terrain des premiers crimes, une Amérique provinciale délaissée, celle des petites villes perdues et décrépies, où l'alliance de désœuvrement et de pauvreté nourrit en son sein les monstres les plus effrayants. Twin Peaks ou X-Files, autre fétiche des années 90, n'aurait pas d'autre territoire que cette monstruosité enfouie de l'ordinaire.
Merci Mathieu Macheret. Le silence des agneaux et pas le seigneur des anneaux de Jonathan Demme est ressorti en salle ce mercredi et on n'en a pas fini avec Hannibal Lecter puisque la semaine prochaine Ntebin nous parlera de la première occurrence à l'écran du psychanalyste cannibale. C'était Manhunter alias Sixième Sens à l'époque de Michael Mann qui ressortira lui le 21 octobre. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Valérie Lavalard. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Paul Rey. La semaine prochaine, nous danserons un tango en tandem avec Monsieur Hir, portrait de Patrice Lecomte en 3 films et en sa présence. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présenté par Christine Bernard.